je vois bien que... Ce que tu nous expliquais, c'est que tu disais, tout est là, stop, essaie de ressentir.
Non, non, c'est pas ce que j'ai dit.
Pas.
Tu es ce que tu cherches.
Voilà, tu es ce que tu cherches.
Respire ça. Et même tu peux m'enlever la fin de la phrase. Ça donne juste je suis. Respire, pas pense.
Après, il y a une pensée qui est arrivée, c'est trop simple.
C'est trop simple, c'est exact. Ce n'est qu'une pensée. C'est pas ça que je veux, c'est pas assez, j'en veux plus. C'est trop simple, trop facile. Pas question, j'accepte que ce soit si simple. Oui, et si tu laisses passer la pensée, et que tu restes avec ce « je suis »
Là où j'ai le plus de mal, moi, c'est justement à... j'ai l'impression que je suis rapidement scotché par la pensée. C'est-à-dire que la pensée arrive, c'est trop simple, et puis elle m'emmène avec.
Ben, c'est-à-dire que d'une façon générale, les pensées apparaissent, comme on a vu, parce que c'est pas toi qui as pensé cette pensée, elle est apparue. Et elles sont crues, paf, instantanément. C'est incroyable. Mais est-ce que c'est vrai que c'est trop simple? Est-ce que c'est vrai que c'est pas suffisant?
C'est... Parce qu'à l'instant où je l'ai vécu, c'était suffisant.
Exact.
Voilà.
Exact. À l'instant où tu ressens cette paix, c'est suffisant. Il n'y a besoin de rien. Il y a quand même la pensée qui s'est passée. Tu vois, comme un gosse, il continue à taper par terre avec un marteau alors qu'on lui a demandé d'arrêter, quoi. Tu vois, il y a quelque chose de... Oh, oh, attends, hé. Continue à courir après on ne sait pas quoi. Continue à courir après la paix qui est déjà là. N'arrête pas de chercher. Mais est-ce que c'est vrai? Tu vois, quand tu poses le regard sur les pensées sans les mettre de côté, si elles ne passent pas toutes seules, tu poses le regard dessus et tu vois que elles ne sont pas vraies. Est-ce que c'est pas assez? Si, c'est assez là maintenant. C'est bizarre qu'il y ait cette pensée qui émerge alors qu'en fait c'est assez. C'est trop simple, mais qui a dit que ça devait être compliqué? Rana Maharshi a dit que c'est tellement simple. Alors, que moi je dis, c'est une chose, mais Rana Maharshi quand même. C'est simple, c'est mais plus simple, je meurs, quoi. Et c'est tellement bête comme chou que vraiment, moi, ce qui, pendant plus de 15 jours après avoir vu ça, après l'avoir réalisé, mais ce qui m'est venu tout le temps presque en boucle, c'était mais comment j'ai fait pour pouvoir plus tôt? Faut vraiment. Ça se tire une balle tellement c'est simple, quoi. C'est une évidence. Quand tu l'as vu, c'est une évidence. Ça a toujours été. Tu l'as toujours eu sous le nez, quoi. Tu l'as jamais vu. Ça n'a pas de sens. Parce que les pensées, tu vois, elles arrivent, mais elles sont tout de suite agrippées. Elles sont crues. Et c'est important de prendre le temps de regarder, ben, est-ce que c'est vrai? Mais qu'est-ce que j'en sais? Et si vous avez tendance à penser, ah, quand même, si, celle-là, elle est vraie, pensée. Est-ce que vous êtes prêt, tu vois, à donner un bras pour ça? De la paix, quoi d'autre?
Moi j'ai l'inverse.
Non, mais toi, tu es partie dans la tête de la révolution.
Non. Quand je vois bien que quand je me pose dans je suis, ça m'aide, parce que ça me calme.
Oui.
Et le fait d'être calmé, ça me remet au contact des émotions et du corps, du ressenti. Donc là, je ressens la douleur, tu vois, dans le corps.
La douleur dans le corps ?
Oui. Et donc, j'arrive pas à y rester et hop, je repars en fuite. En général, dans le mental.
Wow. C'est quoi la douleur dans le corps ?
Bah, toujours cette douleur dans le plexus.
Bah, reste avec. Mais n'essaie pas de l'arrêter, n'essaie pas de supprimer la douleur.
Sois
avec.
Oui.
C'est comme un enfant qui vient de se faire mal.
Oui,
bon, viens là, ma petite douleur. Viens dans mes bras, que je te console.
Oui.
Accepte d'être touché. Accepte d'être tremblante de peur. Avec la douleur.
Vas-y.
Et comment ces douleurs, si tu veux la décrire ? C'est une tension, une pression, une torsion, une piqûre, un chaud, un froid ? Contracture, presque.
Et en même temps, ça brûle, ça lance.
Rien à hurler de douleur.
Si. Alors, aujourd'hui, moins.
Je parle de là maintenant.
Là, tout de
tu
suite.
Tu vas pas hurler de douleur depuis que tu es arrivé.
Pas hurler de douleur.
Est-ce que ça vit un peu ? Est-ce que ça bouge ? Ou est-ce que c'est tout le temps pareil ? Ben non, parce que tu viens de dire pas maintenant.
L'intensité change. L'intensité change.
C'est la première fois qu'il m'en fait deux.
Ah, il en fait deux, c'est tout.
Et ce qui est particulièrement douloureux, c'est ce sentiment. Ça s'arrête jamais jour et nuit. Il y a un moment, on a l'impression qu'on devient fou.
C'est tout le temps là, même quand tu rigoles.
Ouais.
D'accord. Ok, c'est tout le temps là. Avec la même intensité.
Non, ça peut augmenter.
Ça peut augmenter. Là, c'est plutôt pas très fort.
C'est moyen. C'est-à-dire que plus je rentre en connexion avec moi-même, plus je me calme et que je me pose, plus je la ressens. Plus je suis dans l'action, dans la fuite.
Ouais, c'est une belle invitation. Je te propose vraiment d'être avec. Non, t'es pas avec. Tu l'évites. Tu sais que ça change, que s'il n'y en est plus, t'en veux pas, tu la refuses.
Oui. Oui.
Alors regarde le refus, alors. La douleur, je veux pas de toi.
Il y a un côté ras-le-bol.
C'est fait de quoi dans le corps, le refus ? C'est toujours les mêmes. Hein, vous, en boucle, hein, je vais dire les mêmes choses. Où est-ce que tu le ressens, le refus dans le corps ?
Ce que je ressens, c'est une espèce de colère.
Tu la ressens où, la colère ?
Dans le dos.
D'accord.
Dans le plexus.
Et dans le plexus ?
Oui.
Ah oui.
Elle vient rajouter ça.
être quoi?
Parce que ça se passe pas alors que j'ai l'impression que j'ai tout fait pour.
Mmh. C'est pas comme je veux.
Que ça dure,
c'est pas comme je veux.
Oui.
Mmh. Bah oui, c'est pas comme tu veux. Bah oui. Bah oui, c'est une réalité, c'est pas comme tu veux. Souvent, c'est pas comme on veut.
Si on a de la chance.
Et alors? Pourquoi ça devrait être comme tu veux? Où est-ce que c'est écrit que ça devrait être comme tu veux?
Bah, qui a mal au bout d'un moment cherche à faire quelque chose. Si je te tords le bras et que je te fais mal, il y a un moment tu vas essayer de te dégager.
Pareil. Tu veux faire quelque chose? Oui. Oui. Bien sûr. Bien évidemment. Si tu te coupes, tu vas te faire soigner, etc. Évidemment. Mais là, c'est pas tout à fait la même chose. On te tord pas le bras et c'est toi toute seule qui tord les tripes, quoi. Hein.
Mais il y a quelque chose qui me tord les tripes.
Oui, oui. Exact. Excuse-moi. Ma langue a fourché. Ça te tord les tripes.
Il y a quelque chose qui me tord les tripes et il y a quelque chose qui cherche à
les tordre. C'est une invitation.
Comment?
Donc c'est une invitation.
Oui. En ce sens, c'est ça qui m'a poussé, puisque ça a passé l'intenable, à me forcer à essayer de faire quelque chose.
Ah, donc c'est une belle invitation. Donc il faut que ça reste là jusqu'au bout, parce que sinon tu risques de t'arrêter en chemin.
Oui, c'est ça. Il y a une partie de moi qui dit bon, maintenant ça suffit, ça fait 20 ans, c'est terminé, genre je veux plus.
20 ans ?
Oui, ça fait 20 ans.
Tant que ça ?
Oui.
Dis donc. Et alors?
Il y en a marre.
Ok, il y en a marre. Oui, et alors?
Oui, je sais.
Et alors? Oui, il y en a marre. Et alors? C'est un problème d'en avoir marre? Oui ou non?
Oui, c'est un problème.
Ah, ça y est, quand même. C'est un problème d'en avoir marre. Mmh. D'accord. Donc, il y a un problème. T'en as marre et c'est un problème d'en avoir marre. D'accord.
Voilà.
Et alors? Ça change quelque chose?
Oui, ça change que ça empire la situation.
Oui, ça oui. C'est intéressant.
Et en même temps, la colère pousse à...
Oui, il y a l'idée que si jamais j'en ai pas marre, ça va continuer. Si c'est à l'inverse. Puisque tu dis toi-même, ça aggrave la situation.
Ben, d'un côté, ça aggrave, de l'autre côté, ça pousse aussi à...
Je veux te dire, et même, ça aggrave la situation. Et alors ? En quoi c'est grave que la situation soit grave ?
Ben, j'ai envie de dire dans l'absolu non, dans la manière dont je le vis, oui.
Mmh. Ouais, et c'est grave la manière dont tu le vis ? C'est grave que tu le vives mal ? Je veux dire.
Oui, j'ai pas envie de ça.
D'accord, oui, t'as pas envie de ça.
Non, mais de la même manière, tu veux dire, on me torture, c'est grave, okay. Que tu le vives mal.
Non, mais on parle juste de toi là maintenant, tout de suite. On parle pas d'ailleurs quelqu'un d'autre. Hein. Toi là maintenant, tout de suite. Tu le vis mal. Ok. Je suis d'accord, tu le vis mal. Et alors ? Bah oui.
Et alors
Bah tu le vis mal.
Oui.
Et alors ? Est-ce que c'est la peine d'en faire une histoire ?
D'en faire une histoire, non ?
Non. Je le vis mal.
Mais le, oui.
Donc tu peux être avec je le vis mal.
Oui.
En paix.
Non,
je ne vais pas lâcher. Bon, bah tant pis, si tu veux pas lâcher, reste avec.
Bah, je suis honnête. Alors, je peux te dire oui, alors je vois bien que dedans, ça colère.
Bah oui. Mais oui, ça colère. Et alors ? T'as quelque chose contre la colère ?
Non, mais j'ai quelque chose contre la douleur et j'arrive pas à l'accepter. Enfin, c'est pas forcément de l'accepter.
Ok, hein. T'arrives pas à accepter.
Accepter le fait que tout soit bien, même si je...
C'est une douleur, c'est pas une souffrance. T'en crées une souffrance avec la douleur.
Oui.
D'accord, t'arrives pas à accepter. Mmh. Est-ce qu'au moins tu peux accepter de ne pas accepter ? C'est comment ? Reste avec simplement. Comment reste avec ? Il y a la douleur, il y a la non-acceptation de la douleur, il y a la colère autour de la douleur, il n'y a pas d'acceptation. Mais je peux accepter tout ça. Je peux accepter de ne pas accepter. Je peux accepter d'être en colère. commence mal.
Oui, je commence mal parce que je sais que tu es réticent à en parler. Je tente ma chance, on ne sait jamais. Avant la prise de conscience de l'être-té, la zone de confort du moi apparent, ou la zone de confort, je dirais même la zone de pseudo-confort, parce que le moi n'est pas vraiment là. Par exemple, notre zone de confort pour inclure des actes impotibles, autodestructeurs, des états de souffrance. Donc, bon, ce qui correspond aussi, c'est cette zone de confort, ou pseudo-confort, correspond aussi à une configuration habituelle, énergétique, musculaire, neurologique, etc. Donc, quand l'être-té est vu, après, malgré l'attirance, la beauté, la vénération, la célébration de l'être-té, l'organisme corps mental se sent hors de sa zone de confort. Donc, il y a une transition d'une zone de confort à une nouvelle zone de confort qui n'est pas encore une zone de confort. Donc, c'est une zone d'inconfort paradoxalement. Et je voudrais savoir comment cette transition, ça s'est passé pour toi. Est-ce que tu as suivi la voie traditionnelle, ça veut dire, toi ça s'est passé comme ça, ça veut dire, bon, il n'y a rien à faire évidemment, avec le temps, une nouvelle zone de confort, l'organisme corps mental se reconfigure et s'adapte à l'éléphant dans la tente.
Mais c'est faux, c'est complètement faux. Avant la réaction de l'absence de moi, il y a une contraction constante de plein de muscles dans le corps. Au moment où il est réalisé qu'il y a plein de moi, qu'il n'y a pas de moi, ces muscles se détendent. Donc la zone de confort est immédiatement beaucoup plus grande, instantanément. Et pas seulement au niveau du corps, au niveau de la pensée, au niveau émotionnel, à tous les niveaux. Immédiatement, le confort est beaucoup plus grand. On en pleure de gratitude, la plupart du temps. La plupart des gens, il y a un moment où on est dans la gratitude.
Je parle du stade où c'est déjà bien installé.
Non, au moment où ça se passe. Au moment où ça se passe. Au moment précis où ça se passe.
Pour reprendre ton vocabulaire, de la phase, tu as déjà parlé de trois phases. Phase des pensées identitaires, phase de la vision, ça veut dire on s'est vu, et puis phase de la réalisation. Donc je parle de la phase de la vision où il y a des allers-retours en yo-yo entre, ça veut dire le moi identitaire se reconstitue et puis se défait de temps en temps, puis se reconstitue cette phase. Et dans cette phase-là, est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aider à l'établissement de la vision? La voie traditionnelle.
Oui, oui. Ce qui va aider à ce moment-là.
Pendant 20 ans après sa vision.
Oui, mais ça, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils vont directement dans la réalisation, d'autres, ils sont à la vision pendant des décennies. Moi, ça a duré un moment, au moins 10 ans, oui. Mais j'en sais rien, parce que j'ai pas souvenir de la première fois où j'ai vu.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé, par exemple
Ce qui aide. Mais c'est après coup que je peux dire, voilà ce qui aurait pu vraiment m'aider au moment où, mais à l'époque, j'avais pas la connaissance. C'est de regarder. Qu'est-ce qui fait que, alors que j'ai vu qu'il n'y avait pas de moi, je pense que le moi va et vient. Je pense que le moi va revenir. Enfin, je crois encore en un moi qui peut aller venir, alors que j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Quelles sont les croyances autour de la pensée moi qui maintiennent l'idée d'un moi, alors qu'il a été vu qu'il n'y en avait pas? Et les pensées, c'est par exemple ben, c'est pas comme je, c'est pas assez, c'est pas ça. C'est vraiment, tu vois, j'attends autre chose, quoi. C'est pas possible que ce soit que ça. De toute façon, et puis je vis encore de la colère, de la tristesse ou de la peur ou je sais pas quoi, donc c'est que c'est pas là. Et puis je vis pas le nirvana, la paix, la béatitude constante, donc c'est que c'est pas là. Tout ça, ce sont que des pensées crues. Et c'est ce fatras de pensée qui, dans mon cas personnel, a fait que l'éveil ne s'est pas produit 10 ans plus tôt. 10 ans ou 30, j'en sais rien. Et c'est vraiment regarder tout ça. Parce qu'en fait, l'éveil, c'est quelque chose de très ordinaire. Ben, Denis Marie a écrit un bouquin qui s'appelle « L'éveil ordinaire ». C'est complètement ordinaire. Ça n'a rien d'extraordinaire. Les expériences mystiques sont beaucoup plus extraordinaires que l'éveil. Beaucoup, beaucoup plus extraordinaires. Parce que ce qui c'est une expérience mystique, c'est faire l'expérience de qualité que nous sommes. Mais ce n'est que faire l'expérience. Alors que réaliser ce que l'on est, ce n'est pas en faire l'expérience. C'est l'être. Et il arrive que l'on en fasse l'expérience, que l'on vive cet amour que l'on est, plus ou moins fort, ou la paix, ou etc. Mais que ce que l'on vive ou qu'on ne le vive pas, ça ne fait plus de différence, parce qu'on l'est. Les choses arrivent sur fond de ce que nous sommes. Ça s'est toujours passé comme ça. Ça s'est toujours passé comme ça. Sauf que c'est pas vu. Généralement, on colle aux choses, on colle aux événements. Et là, ce qui se passe, c'est que ça colle plus du tout pareil, ça colle quasiment plus jamais. Et dès que ça colle pas, ben en fait, on est ce fond sur lequel tout arrive. Et que ce soit de la peur ou de l'amour qui apparaissent, c'est pareil. En ce sens que c'est pas ce que je suis, c'est l'expérience qui est vécue là maintenant par ce que je suis, qui est en amont de tout ça. Enfin, en amont, c'est des mots, hein. C'est ça la différence. Alors, on attend de l'éveil quelque chose de transcendantal. Ça ne l'est pas.
Non, 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 je vois.
Enfin, moi, c'était comme ça en tout cas. Je crois qu'on est nombreux. Quelque chose de très ordinaire.
Reformuler ma question sur
ouais.
Si tu veux.
Ouais.
Par exemple, dans la tradition indienne, Advaita, on dit que, par exemple, Shankara dit clairement que le karma, et Ramana Maharishi aussi, le karma est de loin plus puissant à tort que l'éveil.
Plus puissant
que l'éveil.
Plus puissant que l'éveil.
Il peut effectivement, même après l'éveil, il peut le faire submerger de nouveau. Et que Ramana Maharishi dit même après l'éveil, on peut le perdre et le karma peut effectivement écraser le réveil de nouveau. Je le cite. Et c'est pour ça, effectivement, que Ramana Maharishi, par exemple, quand on lui pose la question est-ce qu'après l'éveil, on a besoin d'un maître, il dit oui, tant que. C'est pas tout à fait vu, compris et réalisé.
Mais il appelle la veille, il appelle éveil ce que j'ai appelé vision. Et il appelle réalisation ce que j'ai appelé éveil. C'est une question de terme aussi. C'est-à-dire que dans cette période où c'est vu mais pas réalisé, évidemment que c'est le karma qui nous reprend, on pourrait dire, et c'est pour ça que c'est pas réalisé. C'est pour ça qu'on croit de nouveau à un moi.
Donc voilà, ça veut dire que karma, dans le sens classique, ça veut dire samskara, ça veut dire des traces. Des expériences du passé, le conditionnement passé dans le système neuromusculaire.
Moi, je ne le dirais pas. Le karma, il s'exprime encore après l'éveil, après la réalisation.
C'est ça.
Oui. C'est ça. Mais le regard se pose dessus. C'est-à-dire que j'ai bien conscience que les fois où je me suis mis en colère depuis en un an là. J'ai bien conscience que c'est une histoire que mon mental a racontée, c'est une forme de karma, de conditionnement, de choses comme ça. Mais au moment où le regard se pose dessus, c'est vu comme étant irréel, ça s'effondre. Donc, si tu veux, c'est ça qui se passe. Alors, il peut arriver qu'à certains moments, des choses collent plus fortement et que là, il y ait besoin de quelqu'un d'extérieur qui sait de quoi on parle, enfin, tu vois, qui a aussi réalisé l'absence de moi, pour pouvoir se décoller. Rapidement, tu vois. Il m'est arrivé une fois de rester collé quand même pendant 36 heures. À la 36e heure, j'ai appelé quelqu'un et en 10 minutes, j'ai vu la pensée que je n'arrivais pas à voir tout seul. Et ça s'est vite. Je ne sais même plus de quoi il s'agissait. Je ne sais même plus de quoi il s'agissait. Ça s'est effondré, c'est fini. J'ai éclaté de rire, c'était fini.
Oui, c'est très rapide, parce que, en fait, ce qu'on appelle karma, la psychologie occidentale appelle la compulsion à la répétition.
Oui, on pourrait appeler ça comme ça, oui, effectivement.
Je pense que c'est à peu près la même chose.
Oui, ce sont des mécanismes qui sont en nous depuis on ne sait pas quand, et qui se jouent malgré nous, on retombe toujours dans la même ornière, quoi. Tout simplement. Donc, automatiquement. C'est des comportements habituels. Des pensées pas vues, souvent, qui agissent d'elles-mêmes, enfin, qui ont une action juste parce qu'elles sont crues sans être vues. Pour ce qu'elles sont, de simples pensées. Ça peut arriver, ça, bien sûr, oui, ça, oui. C'est pour ça que je dis aussi que l'éveil, c'est pas une fin, c'est un commencement. C'est que il y a des choses qui se passent au moment de cette réalisation, mais il y en a plein qui se passent après. Et ça, puis ça se développe. On en parlait hier avec Jérôme, ceux qui étaient là à table. Ça se développe tous les jours, lui.
Et ça veut dire que la réalité réalisée, c'est vrai que c'est intemporel et définitif, mais sa manifestation dans la vie est quelque chose de relatif. Et que son incarnation, disons, est relative. Effectivement, cette idée folle que l'éveil est définitif.
Ah, l'éveil est définitif. Pour moi, la réalisation, elle est définitive. La vision, il n'y a pas de moi, peut aller et venir. Mais la réalisation, il n'y a pas de moi, c'est définitif.
Ça veut dire que le karma continue effectivement et que...
C'est juste les habitudes qui continuent le temps qu'elles soient vues. Donc, puis il y a des choses qui continuent parce que ça ne gêne personne. Donc, enfin, en tout cas, moi, ça ne gêne pas, donc le regard ne se pose pas dessus. Le regard va se poser sur ce qui est dérangeant ou qui est intense. Si tout d'un coup, j'étais pris par un enthousiasme fort, le regard se poserait dessus. J'en suis persuadé. Parce qu'il y a quelque chose d'intense, d'émotionnel qui se produit, donc le regard se pose dessus. Et ça s'effondrerait dans un éclat de rire. Au moins intérieur, l'éclat de rire.
Encore dire la même chose, autrement, c'est que beaucoup de gens, de chercheurs spirituels, ont des problèmes. Ils sont dysfonctionnels dans la vie, plus ou moins. C'est un problème dysfonctionnel. Alors que ceux qui sont fonctionnels, entre guillemets, par exemple, comme les 8 en énéagramme, ils ne viennent pas ici. C'est-à-dire que, alors que le dysfonctionnement ne s'arrête pas après la réalisation. Ça peut continuer.
Donc partie du dysfonctionnement.
De réaliser complètement névrosé, le dysfonctionnel.
Il y a forcément une partie de la névrose qui s'effondre. Forcément.
Oui, une partie.
Et le reste s'effondrera au fur et à mesure dès que le regard se portera dessus.
La partie qui s'effondre, c'est celle qui ouvre sur le fond, justement. Et grâce à ce fond, tout ce...
Je ne sais pas, ça. Je ne sais pas. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas tenir la route. Comme je disais tout à l'heure, il y a... Enfin, moi, je ne sais pas. Je veux dire, je ne peux pas y mettre ma main coupée. Mais pour moi, il est évident qu'avec l'éveil, il devient impossible... de faire sciemment du mal à quelqu'un. Ça n'a aucun sens.
Ça viendra même pas.
Ça s'effondre.
Ça peut pas venir à l'acte.
Alors il peut y avoir une compulsion qui continue à être agie comme ça, mais j'imagine pas la souffrance que doit créer Jésus qui le fait. Forcément, le regard va se porter dessus. Alors, et s'il n'est pas accompagné, il va trouver quelqu'un, parce que ça, c'est trop insupportable. C'est se faire du mal à soi-même.
Comment la vie peut se faire du mal à elle-même?
Elle n'arrête pas.
Non, mais la vie
consciente, c'est... Oui, c'est ça. Il y a la conscience de... C'est ça. Et c'est pour ça que... Parce qu'il y a une compulsion. La compulsion peut faire que, quand on retombe tout le temps dans la même ornière, ça continue.
Non-vue.
Non-vue. Mais quand elle est vue.
Non-vue. Mais elle peut être vue et pas prise pour réelle. Mais tant que la pensée à l'origine de la compulsion n'est pas vue, ça peut se maintenir.
Vue couple les moteurs.
Vu comme non réel, coupe le moteur.
C'est pas pour tempêter, mais je voudrais continuer là-dessus. Quand tu dis que la pensée à l'origine de la confusion, quand c'est vu, ça s'arrête, on est d'accord entièrement. Mm-hmm. Mais, tu le sais mieux que moi, qu'il y a aussi la névrose préverbale. Ça veut dire
Ah, mais la pensée n'est pas verbale, la pensée est préverbale. La pensée est préverbale.
Ça veut dire l'enfant avant.
Ah, mais même dans le ventre de sa mère.
Ça peut commencer dans le ventre de la mère.
Ah, exactement, oui, ça, donc, oui, et même avant, mais bon, c'est une autre histoire.
Donc, il ne faut pas voir ces pensées, entre guillemets, là, parce que c'est son prêt à la base.
Mais peu importe, elles sont formulées. C'est-à-dire, la pensée n'a pas de langage. La pensée, par la pensée, on peut communiquer avec un chinois, même si on ne parle pas chinois. Parce qu'elle va, même si elle se formule en français ici, parce que je suis français, et en chinois, c'est un chinois, la communication par la pensée, c'est direct, et c'est pas sans les mots. Mais il se trouve qu'on la met en mots, parce que du coup, elle, ça la matérialise, la mettre en mots. Mais même si jamais cette pensée est apparue chez un nourrisson ou chez un bébé dans le ventre de sa mère, sans les mots, le jour où elle est vue, les mots vont se mettre dessus. Par automatisme, parce qu'on a appris à parler. Mais même s'ils ne se mettent pas dessus, mais ils vont se mettre dessus, ils vont se mettre dessus. Mais même si par là, ils ne se mettaient pas dessus, c'est vu comme étant faux.
Mais là, je suis content qu'il y ait cette précision, parce qu'en fait, la définition de la pensée, c'est la pensée pré-langagière. Ça veut dire que pour toi, la pensée existe avant le langage.
Ah, évidemment, oui.
Et que, effectivement, par exemple, en psychanalyse, c'est très difficile de se pencher sur cette partie qui est pré-langagière. Parce que, justement, il n'y a pas de formulation. Et c'est plus...
C'est faux. Dès l'instant où c'est remonté, ça se formule. De toute façon, la formulation est toujours un après-coup. Donc, que ce soit un après-coup d'une seconde ou un après-coup de 200 ans, ça ne change rien. C'est un après-coup. Quand tu formules la pensée qui apparaît en toi, c'est un après-coup, puisqu'elle est préverbale.
Oui, mais sa formulation peut être tout à fait à côté de la plaque, parce que...
Oh, mais là, c'est trop... là, on tombe dans le psychanalyse.
Non, non.
C'est pas...
On n'est plus... C'est un problème qui...
Mais un problème par rapport à quoi?
Actuellement, je ne suis pas la théorie psychanalytique, parce que pour moi, ça tient un peu debout, mais sous sa forme classique. Ce sont des questions que je te pose, c'est très pragmatique en fait. Si tu veux, que faire de cette partie du dysfonctionnement qui sont dues parfois à des facteurs, on peut dire préverbales, on peut dire prénatales, on peut dire même transgénérationnels. Ça veut dire
mais
que...
Pour moi, je vais répéter, je répète en boucle tout le temps, c'est le regard, poser le regard dessus. Et quand le regard se pose dessus, si c'est faux, c'est vu comme faux. C'est simple.
Ok, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que ta réponse, c'est la réponse de l'enseignement traditionnel. Et c'est tout à fait valable, évidemment. Mais là, évidemment, il faut avoir le courage de Ramana Maharishi qui reste, après sur sa réalisation, 20 ans à méditer pour que ça soit métabolisé.
Le regard, c'est très rapide. Quand le regard se pose sur quelque chose de faux, il faut 2 secondes pour le réaliser.
Ça s'invite à chaque
fois. Pour certaines choses, mais pas.
La vie crée
pour la plupart des choses.
Et les situations et les
personnes. Et comme je disais, quand les choses collent trop, alors là, je suis d'accord.
C'est trop direct.
Et ça me paraît une très bonne chose d'appeler quelqu'un qui a réalisé ça et qui va t'aider à voir ce que tu ne peux pas voir par toi-même parce que ça colle trop, quoi.
Mais en fait, là, tu confirmes ce que dit Ramana Maharishi, ça veut dire...
C'est mon expérience. Si tu veux, moi, je vais pas essayer de catégoriser les choses. C'est juste comme ça arrive, tu vois. Quand ça m'est arrivé, cette histoire qui collait... un bout de 36 heures, je dis maintenant ça suffit quoi, fais quelque chose.
C'est très gentil, c'est pour 36 heures, c'est rien d'auto.
Non, mais parce que je savais que si tu veux, je savais que c'était faux, je savais que j'étais collé à quelque chose, et je savais que ce qui collait, que c'était faux, que la réaction que j'avais, que ce que je ressentais, ce que j'éprouvais était faux, mais je ne voyais pas la pensée qui était à l'origine de ça. Donc si tu veux, c'était collé, mais je n'étais pas collé. Il y avait une réaction, mais elle ne m'emportait pas. Tu vois ? Mais malgré ça, donc c'était pas extraordinairement désagréable, c'est pas la question, c'est juste, mais bon sang, qu'est-ce que c'est que je vois pas ? Et comme je n'arrivais pas tout seul au bout de 36 heures, pourquoi je n'aurais pas appelé quelqu'un pour m'aider à voir ? Je ne vois pas l'intérêt de rester 10 ans là-dedans, si on peut juste le voir en téléphonant en 10 minutes avec quelqu'un.
Oui, Oui, mais c'est quelqu'un, c'est peut-être tu parles de Jean-Marc Montagne.
Non, je parlais de quelqu'un d'autre, mais peu importe, ça aurait pu être Jean-Marc ou quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui aura réalisé lui aussi et qui donc saura de quoi on parle.
Voilà, donc je me vois sur quelque chose qui est très rare.
Oh, c'est bien plus fréquent qu'on croit.
On a trois, les maîtres spirituels, que j'appelle les techniciens de l'Advaita, et qui répètent la même chose face à relatif, sans arrêt, de ce marteau de l'absolu, ou bien tu as des psychothérapeutes qui comprennent.
Ouais, mais ça je sais pas, cette fois c'est des catégorisations.
Si, c'est très difficile de trouver quelqu'un.
Mais non, il y en a plein, il y en a plein aujourd'hui.
Double compétence, il y en a plein. Mais là, qui pourrait débloquer.
La personne à qui j'ai téléphoné n'était pas du tout psychothérapeute. Ça n'a rien à voir, je dis, ça n'a rien à voir. C'est une vision. C'est une vision. À partir du moment où on partage une vision qui est, on sait que c'est faux et on sait que c'est lié à des pensées crues, bah c'est quoi la pensée crue? Après, c'est facile de dire, de pointer du doigt. En plus, ça ressent plein de choses.
C'est un problème résolu, semble très facile à celui qui l'a résolu. Non. C'est quelqu'un qui est toujours de l'autre côté, qui l'a encore résolu, ça semble très difficile.
Oui, c'est vrai. On va aller manger.